en sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Un week-end dans les pots de confiture d'un poète, est-ce que ça vous dit? Alors c'est pas tant les confitures de René de Pestre qui nous intéressent bien sûr que son bourgeonnement poétique permanent. À 91 ans, sa vieille Olivetti jamais très loin, il scrute l'écriture comme un horizon éternellement possible. Installé depuis hier dans sa villa Adriana, belle maison du sud de la France, nous évoquions ses années de révolution haïtienne et cubaine dans les années 50-60, ses combats contre la dictature et pour le communisme, puis contre le communisme et pour la liberté. C'est à lire dans Bonsoir Tendresse, son autobiographie qui se lit comme le roman d'une vie intellectuelle écoulée sur tout un siècle. D'exil en expulsion successive, René de Pestre aura aussi provoqué des tempêtes poétiques auprès des plus grands, même par un Aimé Césaire qui leur a finalement sacré poète de la fraîcheur, de la sève qui monte, de la vie qui s'épanouit.
B comme bleu comme une orange.
Toujours dans votre bureau de Lézignan-Corbière, ici à Narbonne, dans votre maison à vous, René de Pestre, ça vous évoque quoi, bleu comme une orange?
C'est éluage, ça. Pour moi, c'est la poésie, ça. C'est ça, le surréalisme, de provoquer des associations de mots imprévisibles. Bleu comme une orange, il faut le faire.
Depuis votre Haïti, dès que l'écriture est née dans votre vie, vous vous êtes senti poète d'emblée?
Ah oui, je me suis senti poète en regardant le golfe de Jacques Mel.
En assistant aussi au chaos haïtien, Franck Etienne parle beaucoup d'irruption de la poésie à partir du chaos haïtien.
Ah oui, naturellement, parce que c'est tragique. On est dans la tragédie, donc on n'est pas loin de la poésie. C'est-à-dire quand on souffre, on est en état de poésie aussi. Tout se tient dans une conscience.
Quand on est dans le bonheur, alors on est à l'abri de la poésie, on ne frôlera jamais cet état de poésie.
Le bonheur aussi, c'est la forme suprême de l'état de poésie, n'est-ce pas? La poésie imprègne tout, même des gens qui n'ont aucun lien avec la poésie, ils en font sans le savoir, l'être humain. A besoin de la poésie, comme du sommeil, comme du réveil, comme de l'amour, comme de tout.
Pourquoi vous avez nommé vos mémoires « Bonsoir tendresse » ?
Ça, c'est la question essentielle. D'abord, mon livre, quand je l'ai écrit depuis le début, je devais l'appeler « Une gomme au crayon du Christ ». Parce qu'il y a un proverbe haïtien qui dit en créole « Crayon bon Dieu, pas grand gomme ». Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Ce qui veut dire que s'il avait une gomme, il aurait pu effacer quelques petits malheurs haïtiens, n'est-ce pas? Et puis, Odile Jacob, l'éditeur, m'a dit que peut-être que c'est un titre que tout le monde ne comprendra pas, qui a un côté obscur. Alors, j'ai relu le livre pour voir s'il y avait une notion qui prédominait, qui est récurrente, que je pourrais prendre. Je voulais un titre très bref. Alors j'ai vu que c'était le mot tendresse qui revenait comme un leitmotiv partout. J'ai trouvé que la tendresse, je disais d'ailleurs un poème, des poètes voyagent en baleine bleue autour du monde, aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Et puis j'ai lu plus loin, l'état de poésie est le seul promontoire connu d'où, par n'importe quel temps du jour ou de la nuit, l'on découvre à l'œil nu la côte nord de la tendresse. Donc, la tendresse imprègne tous mes travaux. Je pense même que, à mes yeux, c'est la valeur principale de la vie.
Et avant
même la liberté, l'égalité, la fraternité, ouais, il y a la tendresse. Parce que c'est le premier sentiment qu'une mère a envers son enfant.
Liberté, égalité, tendreté.
Tendreté aussi. Ça peut marquer les relations entre deux hommes. Ça peut marquer les relations entre un homme et une femme. Ça peut marquer l'admiration qu'on a pour un paysage. On peut avoir de la tendresse pour des oiseaux, pour un chat, pour un chien, même pour les pierres. C'est extraordinaire. Donc aussi bien le minéral, l'animal et le végétal entrent dans la sphère de tendresse. J'ai un certain, je peux le dire sans prétention, un certain succès avec les femmes. Non parce que j'étais un don Juan, ni un coureur de jupe, non, mais les femmes ont compris que j'étais un être de tendresse. Je n'ai jamais eu besoin d'harceler, aujourd'hui il y en a beaucoup de questions, de harceler qui que ce soit. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie à partir d'une présence tendre. Je ne sais pas, j'ai pensé que je ne devais jamais oublier la tendresse qui habitait ma mère. Elle avait 5 enfants, chacun de nous avait l'impression qu'il était le préféré. Tellement ma mère débordait de tendresse, je voyais autour de nous, elle était couturière, elle avait de la tendresse pour ses clientes, pour tout. Donc sans que je m'en rende compte, moi-même, c'est en cherchant le titre que j'ai découvert que la tendresse avait une telle place.
Mais pourquoi bonsoir?
Alors bonsoir, parce que je suis un vieil homme, j'ai 91 ans, j'avais pensé à bonjour tristesse, je ne pouvais pas dire bonjour tendresse, n'est-ce pas? Je ne suis plus l'homme du bonjour, mais l'homme du bonsoir, n'est-ce pas? J'aurais pu dire bonne nuit tendresse aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un titre qui peut marcher. À Jorge Amado, la poésie, c'est notre père qui arrive un soir sous une pluie torrentielle et qui nous chante une complainte qu'il a composée pour une petite cuillère en argent. Notre père voulait arrêter la pluie de septembre avec une petite cuillère et la pluie a retourné son esprit comme un vieux pantalon. La poésie, c'est un père haïtien qui perd la raison pour une petite cuillère mise en chanson sous une pluie qui pousse avec rage tout près de notre enfance. Je suis content de ce petit poème.
Vous êtes content de ce petit poème? Moi, j'adore ce petit poème, René Dupas.
Ah oui,
ah, oui, oui, oui. Oui. Bon, oui. Vous donnez une définition de la poésie qui ravit.
Et c'est vrai, hein, c'est autobiographique.
C'est-à-dire?
Mon père avait composé une petite chanson pour une petite cuillère. Dans ma famille, on pensait qu'il était devenu fou, n'est-ce pas? Quand il revenait complètement mouillé, trempé sous une pluie torrentielle. Et puis la première chose qu'il a dite à ma mère et à nous, les enfants, c'est ça. Il veut arrêter la pluie avec la petite cuillère.
Ce poème, vous l'avez écrit en 1945, à l'âge de 19 ans, dans premier recueil « Étincelle ». Il y a du surréalisme et du merveilleux haïtien dans votre écriture, mais quel est le lien de parenté entre, on va dire, ces deux mouvements littéraires?
Vous savez, Breton pensait que le merveilleux surréaliste, comme il l'avait conçu, la notion de merveilleux était très présente dans la mentalité surréaliste. Mais que c'est un phénomène européen, ça venait des romantiques allemands, de Shakespeare, de Goethe, des grands poètes européens. Et ils découvrent que le merveilleux, dans la vie haïtienne, occupe un rôle quotidien sous toutes les formes. Léo Carpentier a fait la même expérience. Carpentier m'a dit que l'origine du merveilleux, c'est l'expérience même de l'esclavage. Les Africains qui traversaient la mer, l'océan Atlantique, à bord d'un bateau négrier, faisaient une découverte extraordinaire. D'abord, des gens qui étaient sur un continent, les voici sur un bateau, avec des gens qui ont une autre couleur de peau. Il y a des maladies, il y a des tempêtes comme ils n'ont jamais vu, et ils tombent sur un paysage très différent de l'Afrique, le paysage de la Caraïbe ou bien du Brésil. Donc ça a élargi l'échelle de perception. Donc ça vient de la plantation américaine, de l'expérience même de la traite des Noirs.
Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par merveilleux?
On n'entend pas merveilleux, une forme d'éblouissement devant les manifestations les plus différentes de l'existence humaine. Ça peut avoir une dimension cosmique, ça peut avoir une dimension politique.
Est-ce qu'on peut trouver des traces d'inspiration directement vaudou ou même marxiste dans votre écriture?
Ah oui, dans mon livre « Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien », c'est la première fois qu'un écrivain haïtien intégrait tout à fait le vaudou dans son écriture. quand je célèbre les épiphanies des dieux du vaudou. Donc je prends le principal dieu du vaudou, celui qui ouvre les barrières, le maître des routes et des carrefours. Atibon Legba, je suis Atibon Legba. Mon chapeau vient de la Guinée, de même que ma canne de bambou, de même que ma vieille douleur, de même que mes vieux os. Je suis le patron des portiers et des garçons d'ascenseur, et je suis Legba Bois, Legba Caille, je suis Legba Signonion, je suis Legba Karatoulo. Ce soir, je plante mon reposoir, le grand médicinier de mon âme, dans la terre de l'homme blanc. À la croisée de ses chemins, je baise trois fois sa porte, je baise trois fois ses yeux. Je suis Alegba Papa, le dieu de vos portes. Ce soir, c'est moi, le maître de vos layons et de vos carrefours de blanc. Moi, le protecteur des fourmis et des plantes de votre maison. Je suis le chef des barrières de l'esprit et du corps humain. C'est vaudou, ça.
Ouais, c'est vaudou. Donc, on trouve une trace du merveilleux haïtien, du surréalisme.
Oui, du surréalisme
aussi. Est-ce qu'on trouve aussi une trace de la culture cubaine? Par exemple, vous évoquez ce que vous appelez le choteo cubain, c'est-à-dire l'humour cubain.
L'humour cubain. Je ne sais pas, j'étais très impressionné parce que le choteo, c'est la manifestation principale de la mentalité cubaine. Le choteo permet d'utiliser l'autodérision pour tout. Donc, je crois que ça fait partie aussi de ma personne. Mais à Cuba, c'est porté au niveau d'une mentalité de tout un peuple.
C'est le sport national.
C'est le sport national, si on peut dire.
Et donc, vous diriez que vous avez une multiple identité poétique?
Ah bon, oui, bon, j'ai une identité banyan. J'ai une identité banyan parce que c'est un arbre qui se développe en raison de racines. J'ai un tronc haïtien qui s'est ajouté des racines brésiliennes, chiliennes, argentines, françaises naturellement, ça va de soi. Je suis profondément français. Je ne dis pas ça pour vous flatter.
Et la clé de cette intégration, c'est la langue à chaque fois?
Alors c'est la langue, c'est ce que j'ai reçu des frères bretons qui ont une école à Jacmel, une école dans un endroit qui s'appelle la Petite Batterie, tout au bord de la mer. Quand en classe, je voyais les paquebots partir vers la mer, en même temps que j'étudiais la langue française, que le frère Jules nous a fait aimer la langue française. Chaque vendredi après-midi, il nous lisait Alexandre Dumas, Victor Hugo, Maupassant. Donc il nous a fait aimer. On regardait la mer et puis on apprenait la langue française. Pour moi, c'est lié à l'aventure de la mer, puisque nous avions sous les yeux le golfe, et la parole du très cher frère Jules.
Alors je crois que c'est à ce moment-là de votre histoire, pour en sol majeur sur RFI, René de Pestre, qu'il va falloir rendre à César ce mot de négritude.
Je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'en a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir et sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. La négritude, c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négritude a pris naissance au contact de l'humanisme européen.
Haine comme négritude.
Je sens dans votre œil, René de Pestre, une petite pointe de dérision quand vous écoutez Aimé Césaire dire à propos de ce mot négritude qu'il n'était pas très heureux.
Ah bon, non, on ne peut pas dire que ce n'était pas très heureux. Mais moi, au départ, j'étais un homme de la négritude. Mais je me suis méfié au départ de cette notion de négritude parce que c'était un terme anthropologique qui voulait être l'inverse du colonialisme. Or, c'est toujours dangereux de former une conception comme négation d'autre chose. parce que la notion de race ne peut pas constituer une idéologie indéfiniment. Comme Sartre l'a très bien vu dans son étude sur l'Orphée noir, c'est un passage obligé, je comprends très bien Césaire. J'ai eu un débat avec lui.
Oui, vous avez même publié « Bonjour et adieu à la négritude » où vous discutez à bâton rompu avec Césaire. Mais, vous accuse un peu d'assimilationnisme, en fait.
Il m'accuse d'assimilationnisme.
Mais ce qu'il vous reprochait, c'était d'admirer la langue française ce point ?
D'admirer le sonnet, pas la langue française, mais le sonnet. Et l'alexandrin, il y a ça au colonialisme, vous comprenez, parce que, n'est-ce pas, il ne comprenait pas qu'un poète noir puisse participer à un débat sur la poésie nationale en France, mais moi je lui dis, c'est notre langue. En Haïti, beaucoup d'Haïtiens ont commencé par écrire de très bons sonnets, et de très bons alexandrins, notamment Léon Lalo, je citais Jacques Roumain et d'autres. Donc on a un débat très fécond. Finalement, moi, ça m'a rapproché de Césaire, au contraire.
Mais pas de la négritude.
Négritude, mais à condition de dépasser.
Et alors, ce quelque chose de poétique, de renouveau poétique, vous lui donnez quel nom, vous ?
En ce moment, j'essaie de donner un nom à un phénomène qui dépasse la négritude, le surréalisme et tout le reste. C'est la notion que Glissant utilise aussi de mondialité. Parce que la mondialisation elle-même n'est pas un facteur de civilisation, si je peux dire, c'est un phénomène technologique, c'est un phénomène numérique, c'est surtout un phénomène financier. La mondialisation n'a pas d'âme, c'est un mouvement sans supplément d'âme, qui a besoin d'avoir une culture qui lui est propre. Ça ne peut être qu'une culture universelle. Il faut prendre aux 8 ou 9 civilisations qui rayonnent dans le monde, la pensée hindoue, chinoise, japonaise, dans le monde occidental, en Afrique naturellement, chez les Slaves. Aujourd'hui, on a besoin d'une mondialité, d'une forme nouvelle d'exercice de la tendresse, de notre devoir de tendresse.
René De Pestre, vous avez quitté Haïti qui devenait, on l'a raconté en première partie, dans notre premier numéro en sol majeur qui vous est consacré, Haïti qui devenait une sorte de broyeuse de liberté, une dictature en tout cas. 60 ans après votre départ, vous réfléchissez toujours au pourquoi cette première république noire n'est toujours pas une démocratie. Et vous avez l'air de dire que c'est un peu la faute à ce mythe de la race noire.
Oui, je pense que la question raciale a joué un rôle très néfaste dans le développement d'Haïti. Parce qu'au départ, les Haïtiens, qui étaient des contemporains de la Révolution française quand même, donc qui avaient à leur disposition des idées très originales pour constituer un État-nation, on s'est écarté de cela pour essayer de réhabiliter la race noire. C'est un État racial. On n'était pas un État noir, on était un État issu à la fois du mouvement de libération des Haïtiens et de la Révolution française, certainement. Il n'y aurait pas eu l'indépendance d'Haïti s'il n'avait pas été précédé par la Révolution française. Donc nous étions des Jacobins noirs et puis on a pris cette affaire de race qui nous a absorbés, qui a créé un préjugé de couleur entre Haïtiens eux-mêmes, entre mulâtres et noirs. Donc on était très mal parti avec cette affaire.
Bon, René De Pestre, vous vous êtes plaint qu'il n'y ait pas eu jusque-là dans votre ensemble majeur de la musique classique. On va réparer ça tout de suite avec Rachmaninov.
Ah, c'est bien Rachmaninov. Quand j'ai vécu en Russie, j'ai passé mon temps à écouter tous les grands musiciens de Russie. C'était formidable.
Thank you.
Une larme de Rachmaninov, ça se passe sur le pick-up en sol majeur d'un René de Pestre qui nous ouvre ses portes, vous le savez, tout un week-end dans cette rediffusion en sol majeur. De Pestre, poète haïtien, qui, vous l'avez entendu hier en première partie, milite pour la tendresse au point de réécrire intérieurement notre devise « Liberté, égalité, tendreté ». Bonsoir tendresse, c'est donc sa dernière caresse littéraire. C'est le titre qu'il donne à son autobiographie. On y hume son Jacmel d'autrefois. On y renifle ses doutes sur la négritude. On y sourit comme il sourit lui-même dans son hamac de sans-papiers. Autrefois privé de sa nationalité haïtienne, surveillé à Cuba, sa patrie d'adoption. Aujourd'hui, c'est un Français qui coule des jours merveilleusement poétiques dans sa maison du sud de la France. Bonsoir monsieur De Pestre, clap dernière.
A comme arche de Noé.
Le dieu que vous êtes, René de Pestre.
Oui, le loi.
Le loi l'esprit. Que je suis. Il mettrait qui sur son arche de Noé?
Ah, si on a le golfe de Jacmel, pour commencer. Et puis le dictionnaire tout en un.
De papa.
De mon père, en feuilletant le dictionnaire. Je pensais qu'il était un dictionnaire enchanté.
Les poupées russes, là, qui sont sur votre étagère?
Ah, bon.
C'est ce qui reste de votre idéal communiste?
C'est ce qui reste peut-être. D'une poupée. Oui, c'est très bien, c'est une bonne image.
Dans votre bonsoir tendresse, René de Pestre, vous nous faites monter à bord sur votre arche, à vous, pour partager ce que j'appellerais ces passants qui vous suivent toujours. Et donc, il y a parmi eux l'ethnologue et auteur de l'Afrique fantôme, qu'on a tous un peu lu, mais aussi de l'âge d'homme et de la règle du jeu. Je veux parler de Michel Léris.
La règle du jeu prend la suite de l'âge d'homme. Ce qui m'est apparu dans l'âge d'homme, j'avais abordé, j'ai fait le domaine érotique. Vous constaterez que dans la règle du jeu, il y a un thème qui disparaît presque, c'est le thème érotique. Et puis en revanche, un thème qui apparaît, le thème politique. Si vous voulez, ce que je considère, il y a vraiment deux très grands génies de notre époque. C'est Karl Marx, d'une part, qui s'est rendu compte de l'importance absolument déterminante, capitale, des facteurs économiques. Et puis, d'autre part, Freud, qui s'est aperçu de l'influence également capitale du facteur sexuel. Toutes choses sur lesquelles les idéalistes, auparavant, avaient toujours jeté un voile pieux. Enfin, parce que le sexe, et puis les besoins matériels, ce sont des choses qui ne sont pas tenues pour jolies, qui sont tenues pour des choses basses.
Personnalité rare que celle de Michel Léris, qu'on écoute là dans votre maison de Lézignan-Corbière, René de Pestre, chez vous, dans le sud de la France, pour en sol majeur. Alors, on suppose que vous avez évidemment tété au lait de Marx. Mais est-ce que vous avez été au lait de Freud?
Oui, j'ai lu Freud. Quand j'ai vécu en Tchécoslovaquie, je me suis intéressé à la culture autrichienne, à la culture viennoise. Et j'ai lu tout Freud à retenir.
Est-ce que l'érotisme de votre écriture a été précédé, comme pour Michel Léris, été précédé du processus analytique?
Ah non, moi mon érotisme vient de Jacmel, vient d'Haïti, de cérémonie vaudou, de Hounsi, qui sont des assistantes du sacerdoce vaudou et qui dansent d'une façon merveilleuse, n'est-ce pas?
Suggestive.
C'est très suggestive, à peu près, elle était presque nue. Ça n'avait rien de grivois. C'était une danse... une transe remarquable, n'est-ce pas? Qui pouvait impressionner beaucoup un jeune garçon avec de l'imagination. Donc, c'est ça l'origine de mon érotisme. Ça vient de la vie. C'est pas un héritage livresque.
Et en tout cas pas freudien.
Sûrement pas freudien. Je n'ai jamais eu de complexe, des préoccupations de l'inconscient, tout ça.
Complexe d'Oedipe, c'est pas...
Non, c'est pas ma tasse de thé. Non, parce que j'appartiens à une culture très libre, à une culture païenne.
Donc il n'y a pas de caractère universaliste dans la psychanalyse façon Sigmund Freud.
À ce moment-là, je rejoindrai plutôt Michel Onfray, qui a fait une critique très sévère de la psychanalyse. Mais je pense que, du point de vue thérapeutique, ça peut avoir une grande importance.
Alors il y a une autre voie clé pour vous, c'est celle de Jean Price-Mars.
Ah bon?
Vous allez nous dire, mais oui. Je rappelle simplement, 1876-1969,
oui.
Écrivain, philosophe,
oui.
Essayiste haïtien.
Depuis toujours, le tambour et le lambi ont convié le peuple haïtien au travail, à la joie, jusqu'à la révolution et l'indépendance. Toute l'histoire d'Haïti est faite de révoltes. Ce sentiment de la liberté chez les esclaves a toujours existé. On a vu des esclaves courir vers des canons, enfoncer leurs bras dans la gueule des canons pour les empêcher de partir pendant cette longue période de 1790 à 1804. Et alors, de la masse des esclaves ont surgi des héros incomparables, un Toussaint Louverture, un Dessalines, un Christophe, un Pétion, et j'en passe. Tous des héros qui se sont constamment insurgés contre le régime de l'oppression et de l'esclavage.
Jean Price-Mars pour en sol majeur, très impérial.
Oui.
Pour quelle raison il a compté pour vous, René de Peste?
Il a compté énormément pour ma génération. Le premier livre que nous ayons lu en Haïti, c'est Ainsi parla l'oncle. C'est un livre clé pour comprendre les Haïtiens, parce qu'à l'époque, il y avait tout un courant dans l'élite haïtienne qui méprisait l'Afrique. Et Price-Mars, quand il est rentré en Haïti après ses études médicales à Paris, a été scandalisé par le dédain qui existait en Haïti pour l'Afrique. Et il a raconté l'Afrique aux Haïtiens. Il nous a donné une conscience avant même d'en entendre parler dans nos familles. Et moi, je l'ai connu personnellement. J'étais un très jeune garçon. Quand j'ai publié Étincelle, je mettais en question toute la société haïtienne. C'était un brûlot. Et Price-Mars m'a toujours défendu. Et un jour, je marchais dans une rue de São Paulo. J'étais au fond de l'exil à São Paulo. Et j'ai vu quelqu'un qui marchait devant moi. C'était lui. Ça a été une fête, cette rencontre au Brésil avec l'anthropologue Price-Mars. C'est extraordinaire. J'ai fait deux rencontres dans la même semaine. J'ai rencontré Price-Mars et j'ai rencontré William Faulkner.
Pas mal.
C'est extraordinaire.
Il faut vraiment se promener à votre bras, alors, pour rencontrer le monde.
N'est-ce pas?
Price-Mars, il parlait d'une identité haïtienne spécifique.
Oui.
Et même d'une négritude à l'haïtienne.
Oui, il y a une négritude à l'haïtienne. Césaire lui-même a dit qu'Haïti est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Parce que nous avons été les premiers à réhabiliter vraiment les hommes noirs et à combattre l'esclavage, les armes à la main, et à gagner. Nous avons dansé notre couleur, vous comprenez, nous en avons fait un facteur de tendresse alors que c'était un facteur de dénigrement.
Mais qu'est-ce que la créolité à l'haïtienne?
La créolité, c'est très important parce que on ne s'est pas contenté de recueillir l'héritage africain, mais sous la plantation, on l'a transformé avec la langue. Donc, on a fait une synthèse entre le français et le langage africain. Et puis, dans la danse, on a appris le menuet, on a appris les danses classiques françaises, on l'a intégré à notre propre dynamisme, à nos rythmes, à nos tambours, à nos tam-tams. On en a fait une valeur musicale exceptionnelle. C'est pareil avec la peinture, avec la littérature. C'est une façon spécifique d'être haïtien.
Alors, parmi la liste impressionnante d'intellectuels qui vous ont croisé,
oui.
Il y a l'idiot, le fameux auteur des mots, le fameux Jean-Paul Sartre.
Ah, vous, l'idiot de la famille.
La bourgeoisie s'est toujours méfiée, à raison, de ses intellectuels. Mais elle s'en méfie comme d'êtres étranges qui sont en fait issus de son sein. La plupart des intellectuels, en effet, sont nés de bourgeois qui leur ont inculqué la culture bourgeoise. Ils apparaissent comme gardiens et transmetteurs de cette culture. De fait, un certain nombre de techniciens du savoir pratique se sont tôt ou tard fait leur chien de garde, comme à 10 ans. Les autres, ayant été sélectionnés, demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires. Ceux-là, on les laisse contester. Ils parlent le langage bourgeois. Mais doucement, on les tourne, et au moment venu, il suffira d'un fauteuil à l'Académie française, ou d'un prix Nobel, ou de quelque autre prébende, pour les récupérer. Cependant, il est des intellectuels, j'en suis un, qui depuis 68 ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie.
Alors Sartre, je ne sais pas si vous étiez sensible à la dialectique sartrienne, mais j'ai cru comprendre, en lisant Bonsoir tendresse, que vous n'étiez pas du tout un sartrien, René de Pestre.
Non, j'étais pas sur le plan philosophique. J'étais pas capable de résumer l'être et le néant. J'étais pas un partisan de la pensée de Sartre.
Pourquoi?
Parce qu'à l'époque, j'étais marxiste. Parmi les modernes, j'aimais surtout Gramsci et Walter Benjamin. C'était ça, mes philosophes. Et puis plus tard, Régis Debray. Mais j'ai connu Sartre. C'est la connaissance du personnage qui a fait de moi un sartrien, tout simplement. Parce qu'il est venu à Cuba avec Simone de Beauvoir. On assistait à un grand spectacle à Tropicana où il y avait des jeunes femmes merveilleuses qui dansaient. Et Sartre était ému jusqu'aux larmes. Jusqu'aux larmes. Il était un grand amoureux. Il avait une femme dans chaque pays où il allait.
Une femme dans chaque port.
Oui, dans chaque port.
Est-ce que selon vous, il incarnait ce mot que vous aimez tant, la fraternité?
Ah oui, c'est avec ces paroles de Sartre que j'ai terminé Bonsoir tendresse. Il disait... Il faudrait tout mettre en œuvre pour étendre l'idée de fraternité jusqu'à ce qu'elle devienne rapport unique et évident entre les hommes. Et ça, je l'ai compris lors d'une conversation qui a duré 5 heures avec Sartre. J'ai été interviewé à l'hôtel Ukrainien alors qu'il était présent à Moscou pour le journal Révolution dont j'étais le correspondant et je pensais que ça allait durer le temps de l'interview. À ce moment-là, il avait son interprète était ce que j'ai appelé par la suite un scandale biologique à la russe, une femme d'une beauté extraordinaire. Ça, je me disais, si on laissait Léna faire, elle brûlerait de sa beauté tous les mensonges de Russie et de l'Occident chrétien, disait Sartre.
Léna était une grande amoureuse donc de Sartre.
Une grande amoureuse de Sartre. Et il me dit, Léna est partie faire des courses. On va déjeuner dans la datcha. Donc j'ai du temps, on peut converser un peu. Ça a duré 5 heures. J'étais avec Sartre. Alors j'ai découvert un être exceptionnellement brillant, exceptionnellement fraternel. Vous comprenez? J'ai connu beaucoup de gens intéressants dans ma vie. Neruda, Amado et d'autres, Diego Rivera, Ho Chi Minh, Che Guevara, last but not least, Che Guevara. Mais je mets Sartre à part. Une merveille du monde.
Sous quelle étoile êtes-vous né?
Sous quelle étoile êtes-vous né, René de Pestre?
Sous quelle étoile? L'étoile de la Vierge. Je suis né le 29 août 1926, donc c'est paraît-il la Vierge.
C'est une figure importante pour vous, qui n'êtes pas croyant?
Oui, je ne suis pas croyant, mais je suis faible pour la Vierge, parce que je pensais que ma mère était une sorte de Vierge dans sa tendresse.
C'est pour ça que le complexe d'Oedipe ne peut pas prendre
sur
vous.
Elle ne peut pas prendre sur moi. C'est impossible. Me voici, citoyen des Antilles. L'âme vibrante, je vole à la conquête des Bastilles nouvelles. Je glane dans les champs ensoleillés des moissons d'humanité. J'interroge le passé, je mutile le présent, j'enguirlande l'avenir. tout mon être aspire au soleil. Me voici, fils de l'Afrique lointaine, partisan des folles équipées. Je cherche la lumière, je cherche la vérité. Je suis amoureux de l'âme de ma patrie. Me voici, nègre aux vastes espoirs, pour lancer ma vie dans l'aventure cosmique du poème, j'ai mobilisé tous les volcans que couvait la terre neuve de ma conscience. Et j'ai renversé par un pompeux coup d'état toutes les disciplines nuageuses de mon enfance. Me voici, prolétaire. Je sens gronder en moi la respiration des foules. Je sens vibrer en moi la rage des exploités. Le sang de toute l'humanité noire fait éclater mes veines bleues. J'ai fondu toutes les races dans mon cœur ardent. Me voici, poète, adolescent, poursuivant un rêve immense d'amour et de liberté.
Dans quelles circonstances vous avez écrit ce premier poème, René de Peste ?
Ah, dans quelles circonstances ? D'abord, j'écrivais des poèmes classiques. Je rimais beaucoup. J'étais sous l'influence d'un poète.
Ah, un petit téléphone.
Allô ? Comment ? C'est qui ? Ah, la kiné. Vous ne venez pas ? Je le dirai à Nelly. Hein? D'accord, d'accord. Au revoir, ciao.
Vous dites toujours ciao, hein ?
Je dis ciao,
ouais,
oui.
Ouais. C'est votre côté cubain, ça, ou quoi ?
Non, j'ai toujours l'Italie, ça. J'ai vécu en Italie aussi.
Ah, voilà.
Oui.
Donc, dans quelles circonstances vous avez écrit ce premier poème ?
Je l'ai écrit au bord d'une table, d'un seul souffle, parce que c'est la première fois que j'écrivais en vers libre.
Vous célébrez l'homme noir,
oui.
René de Peste, mais être noir, est-ce que ça veut dire forcément être africain ?
Ah non, pas forcément, parce que la culture associée au monde africain s'est diversifiée beaucoup. Les Noirs ne se ressemblent pas les uns aux autres. Quand on passe du Brésil à Cuba, d'Haïti à Panama, partout il y a des Noirs en Amérique du Sud, mais ce sont différents. Il y a des traits qui nous sont communs, notamment quand on est religieux. Et nous tous, nous avons une dette vis-à-vis de l'Afrique du fait de la traite atlantique.
Est-ce que dans vos multiples prises de conscience, vous vous êtes perçu comme Césaire à son époque, comme un être colonisé ?
Ah oui, on en avait nettement conscience parce qu'on étudiait de près l'histoire de l'indépendance d'Haïti.
Mais aujourd'hui, vous diriez que vous êtes toujours un être colonisé ?
Ah non, non. J'ai fait un travail personnel de décolonisation. C'est-à-dire, moi-même, j'ai repris tout ce qui m'a influencé dans mon passé. Je me suis fait une sagesse personnelle avec des valeurs qui ne sont pas forcément empruntées à l'Afrique, qui sont empruntées au miracle viennois dont je vous parlais tout à l'heure.
Mais alors, quelles valeurs à rattacher à cette mise de l'Europa, par exemple ?
Le rapport du sexe et de la mort, c'est très important dans la culture viennoise. Comment ça a obsédé au point qu'on puisse parler d'une sorte d'apocalypse joyeuse chez les Viennois.
Dans l'acte sexuel
Oui, c'est pas par hasard qu'un homme comme Freud est né à Vienne. Il avait sous les yeux une sexualité très particulière, très forte, parce qu'en même temps, ils avaient une peur de la mort. La mélancolie qu'avait Sissi, ou bien Alma Maria Mahler, des femmes que j'admire beaucoup, leur charme mélancolique et romantique. Voilà des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, et qui sont très présentes dans ma vie érotique notamment.
Donc vous avez toujours été pris entre les deux feux dont parlait votre mère, oui, celui de la langue française et celui de la conscience de l'homme noir.
De l'homme noir, oui, aussi.
Quelle est votre langue maternelle, René de Peste ?
J'ai une double langue maternelle, le créole et le français. Parce que dans ma famille, sans arrêt, ma mère passait du créole au français.
Mais la tentation d'écrire en créole ne vous a jamais rattrapé.
Ne m'a jamais rattrapé. J'ai essayé, j'ai fait des poèmes en créole que je n'ai pas gardés.
Pourquoi ?
Non, je pensais que je ne pouvais pas aller au fond des choses, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une séduction en ce qui concerne le français.
Vous avez un air canaille en disant
oui,
ça.
J'ai un air canaille.
Ah oui.
La femme française est sans doute présente dans mes yeux. Je ne le cache pas. Ça a été pour moi un éblouissement quand je suis arrivé à Sciences Po et que j'ai eu mes premiers liens de camaraderie avec les étudiantes. Pour moi, c'était le merveilleux. Oui.
Vous êtes un exilé de longue date, traversé par de multiples courants dans votre écriture.
Oui.
Mais en même temps, cette écriture, elle est toujours revenue sur la terre haïtienne.
Ah oui, parce que le nœud de mon être, c'est Haïti. Mais je m'ajoute d'autres racines. Il y a la racine haïtienne centrale, mais comme je vous dis, j'ai une sensibilité d'homme bagnant. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je n'ai jamais été en exil. Parce que l'exil suppose une rupture, il y a une sorte de dolorisme depuis l'époque d'Ovide jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas. Parce que je reconstitue Haïti partout où je vais.
Est-ce que dans cette pièce où on est, on a une reconstitution, vous
d'Haïti,
trouvez d'Haïti?
Mais oui, j'ai Haïti derrière moi qui vous répond. C'est Haïti qui vous répond à travers moi. Vous ne sentez pas comme ça que je suis éminemment haïtien, tout en étant très profondément franco-haïtien. J'aime qu'on dise que je suis un écrivain franco-haïtien, et non un écrivain haïtien, un écrivain français. Je suis les deux à la fois, inséparables.
Est-ce que vous vous sentez des attaches avec tous ces mouvements afro-descendants qui existent?
Ah non, non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération s'est écartée un peu des leçons de Césaire et de Senghor. Ils continuent à réfléchir à partir de la race. Tout ça s'est dépassé de la négritude. Il faut ouvrir. La mondialisation place devant nous des responsabilités nouvelles qu'il faut savoir assumer. Donc la formation de ce glissant avec raison appelle une mondialité.
Quel est votre premier port d'attache?
Maintenant, c'est les Îles Corbières. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Donc, je me fais facilement des amis, donc à les Îles, je suis un Lésignanais de plus, si vous voulez.
Après avoir été un Cubain de plus.
Un plus qu'un VP. Ça a mal fini.
Ça a mal fini. Non, mais là, ça va.
Ça va très bien même.
J'aimerais, pour conclure cet en sol majeur, René de Pestre, savoir votre sensibilité par rapport à notre époque, et peut-être qu'on la retrouve dans un poème récent que vous avez intitulé vous-même « La poésie au temps de Ben Laden ».
Ah oui, vous avez vu juste, et je vais vous lire donc « La poésie au temps de Ben Laden ». Je dédie ce poème à Marc Aline, dans une petite ville des Corbières, entre les vignes et la mer, le cerce, vent qui vient du nord, se souvient des années d'enfance à Reims d'un garçon qui prendra le nom de Marc Aline. Tout de verre et d'acier dans son destin, il vit de l'éternité de la poésie. Un cinquième avion de ligne détourné s'est précipité sur sa tour poétique. L'islam à papa ou sa main tient pour diabolique la justice des poètes. Il ne tolère ni le lyrisme, ni nos atomes crochus avec le feu des femmes. Contre cet amour fou de la grande santé, tonton Ben Laden, envieux de la montagne, envoie les mêmes missiles du 11 septembre qui ont tué les tours de World Trade Center. Moi aussi, je suis le ciel clair de New York, s'est dit Marc Aline, en serrant fort dans ses bras l'espace et le temps sacré de ses poèmes.
Ça gratouille avec Erzouli Malado. Merci Martha Jean-Claude et merci à la Villa Adriana de nous avoir accueillis et permis de rencontrer Monsieur René de Pestre qui publie chez Odile Jacob « Bonsoir tendresse » et « Bonjour, bonsoir Haïti chérie ». En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve dans nos studios parisiens la semaine prochaine avec Daniel Cuxac. À la semaine prochaine.